Radio Recyclerie, un espace sonore où vibrent les écologies. Aux côtés de la directrice artistique Marine Benz, les journalistes Philippe Vionduri et Clément Quintard lancent Fracas, le média des combats écologiques. Fracas se veut le porte-voix d'une écologie radicale, profondément attachée à la justice sociale et à l'émancipation. Ce média entend ainsi faire dialoguer les multiples ramifications du mouvement écologiste.
Les choses sont en train d'un peu changer chez les gens qui se définissent comme écolo. Il y a beaucoup, de plus en plus en fait, de personnes qui se rendent compte que qu'importe en fait la tradition philosophique, idéologique à laquelle on se rattache, quand on doit s'opposer aux méga-bassines, on combat tous la même chose en fait.
Cet épisode parle de journalisme engagé, de résistance culturelle et d'alliance militante. Bonjour Clément Quintard.
Bonjour.
Bonjour Marine Benz.
Bonjour.
Et bonjour Philippe Vionduri.
Bonjour.
Alors après avoir tous les trois largement contribué au succès du magazine Social Terre, vous lancez une nouvelle aventure éditoriale avec Fracas, le média des combats écologiques. Selon Larousse, le fracas, c'est un bruit violent et soudain de quelque chose qui se brise, éclate, s'effondre. Et donc le Larousse cite comme exemple le fracas des vagues. Quel serait votre exemple de fracas, chacun, chacune ?
Moi, je vais peut-être commencer. C'est marrant que le Larousse parle du fracas des vagues, parce que moi, c'est vraiment la première image qui me vient. C'est vraiment des vagues qui se brisent sur une falaise, quoi.
Philippe,
moi, ce serait plus la rumeur d'une foule, genre Révolution des casseroles, par exemple, où tout le monde tape en même temps sur quelque chose. Donc, ouais, c'est plutôt ça, moi, l'image qui me vient avec fracas.
J'avoue que j'étais persuadé que Clément aurait une référence beaucoup plus manif. Et moi, je suis plutôt d'accord avec Philippe. C'est aussi ma première pensée.
Bon, on part sur ces multiples fracas, du coup. Et quel est votre point de départ pour le lancement de ce magazine ? Est-ce que c'est d'essayer justement de comprendre les fracas du monde, ou c'est plutôt d'essayer de porter des idées pour armer idéologiquement vos lecteurs et lectrices futures ?
Bon, on a utilisé un peu cette image du double fracas, c'est le fracas du monde qui se brise un peu sous nos yeux, enfin, des illusions, d'une certaine civilisation finalement qui arrive en bout de course, et en même temps le fracas des gens qui s'assemblent et qui tentent de se mettre en marche ensemble pour proposer autre chose, pour résister, je sais pas jusqu'à quel point on peut tisser cette métaphore, mais en tout cas on voulait pas rester juste sur quelque chose qui se brise, parce que c'est quand même quelque chose d'assez assez triste. Mais voilà, la rumeur qui enfle aussi des gens qui veulent agir, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris comme slogan les combats écologiques, parce que c'est quelque chose de, quand même de collectif, et c'est quelque chose d'offensif, mais c'est pas forcément quelque chose de dangereux, c'est aussi quelque chose de positif.
Je pense que directement Marine. Aussi ça évoque quelque chose d'assez radical. C'est pas mignon.
Oui. Du coup, sur l'aspect identité graphique, quel est le rôle, selon toi, de l'image, de l'art, de la création pour porter les pensées et les luttes écolo ?
Je pense que le rôle, avant tout, c'est de rendre ça accessible et de donner envie aussi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de médias, surtout sur l'écologie, qui peuvent avoir un aspect un peu vieillot, et je ne veux pas me faire d'ennemis. Et je pense que ça peut aussi, par certains sujets, pouvoir faire peur. Mmh. Mon envie, c'est quand même avant tout de rendre ça accessible et parfois aussi drôle, même si les sujets peuvent l'être un peu moins.
Une des ambitions du média, c'est de créer un magazine et aussi en parallèle des contenus numériques. Magazine papier. Mmh. Pourquoi vouloir miser sur le papier aujourd'hui, alors qu'on sait que la presse écrite a un peu de plomb dans l'aile ? Quelle est l'importance de l'objet papier pour toi, pour vous ?
Je dirais que le papier, pour moi, c'est vraiment sur le temps long. Enfin, c'est quelque chose qu'on prend le temps de lire. Mmh. Nous, on aimerait vraiment faire des objets que les gens gardent, des objets qui sont beaux et des objets qui durent. La vidéo, ça peut nous amener à un autre public. C'est très accessible, c'est plus immédiat, mais c'est aussi beaucoup plus court. Mmh. Et c'est pas du tout, je pense, autant en profondeur.
Philippe ?
J'enchaîne. Je suis d'accord avec ce que dit Marine. Enfin, ça part quand même de quelque chose de très simple, c'est qu'on aime ça, en fait. On aime le papier. Marine, elle vient du papier. Nous, on vient plus ou moins ces dernières années, en tout cas, du papier. Et toi, Clément, encore plus longtemps que moi. Donc voilà, déjà, c'est qu'on aime ça. On aime ce rapport-là, cette matière, de ne pas être toujours pris dans les flux, etc. Donc ça, c'est cool. Puis après, c'est un socle économique. Enfin, on a quand même vu dans notre expérience passée que ça permet de créer des abonnements. Les gens, ils ont quelque chose dans les mains. Ça pousse les gens à s'engager avec nous. Mmh. Ça fait aussi qu'on a des numéros. Et du coup, un numéro, à chaque fois, on prend une position. Donc on se mouille en tant que journaliste. On doit dire, voilà, on va faire un édito et on va trancher un peu dans l'art, quoi. Donc c'est dangereux toujours de faire ça en tant que journaliste, de dire, Bon, on a pris un choix de dossier, peut-être qu'il va plaire, peut-être qu'il va pas plaire. On va faire un édito, peut-être qu'on va se planter dans l'édito, sur l'analyse de la situation politique du moment, par exemple. Mmh. Et je trouve que cette prise de risque avec les numéros à chaque fois, elle est hyper... elle est intéressante, puis elle est un peu courageuse. Enfin, c'est pas pour dire que les autres sont pas courageux, mais c'est... on aime un peu, je pense, Clément et moi, en tout cas, quand on se penche sur un édito et sur un choix de numéro, bah, prendre des risques, quoi. Il y a un peu une adrénaline de du numéro.
On peut parler de votre manifeste, pour revenir sur les points de départ forts de la création du média. Vous écrivez, il y a eu pour vous un avant et un après Sainte-Soline, et que cet événement vous a amené à vous poser... une question notamment, c'est à quoi ressemblerait un média utile au combat écolo ? Je vous laisse du coup y répondre. Peut-être nous dire comment un média, selon vous, peut accompagner, porter les luttes écologiques.
Ouais, c'est vrai qu'on a eu ce questionnement après Sainte-Soline, après avoir assisté à cette répression, à cette violence inouïe qui s'est déversée sur les manifestants présents. Ce jour-là.
Vous y étiez chacun sur place.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Déjà, on était forcément choqués, voire traumatisés pour certains de ce qu'on avait pu voir. Et ensuite, on s'est dit, mais là, il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose dans le camp de l'écologie. Mmh. En fait, tout le monde est devenu, je dirais pas du jour au lendemain, parce que c'est quand même un mouvement de fond, mais lucide sur le fait que... pas grand-chose à l'échanger avec des manières, on va dire, conventionnelles, on va dire consensuelles, par le jeu démocratique ou ce genre de choses, et que pour faire un petit peu avancer la cause écologique, il s'agissait d'utiliser un peu, j'ai envie de dire, le répertoire, l'arsenal dont disposent en principe les citoyens dans une démocratie, que ce soit la manifestation, la grève, la désobéissance civile, pour en fait... faire avancer la cause écolo. Ça, c'était pour un petit peu le camp écologique en général. Et nous, en particulier, en tant que journalistes, on s'est effectivement posé cette question-là. Mais comment est-ce qu'on fait pour accompagner ce mouvement-là ? Comment est-ce qu'on fait aussi pour éviter que les personnes mobilisées sur les questions écologiques échappent à la répression, se parlent entre eux, etc. etc. Mmh. Et là, on s'est dit, en fait, faut un peu quitter notre position de journaliste surplombant qui essaye de conscientiser, entre guillemets, les personnes à l'écologie. Non, nous, on a envie maintenant aujourd'hui de parler aux écolos. Philippe, tu avais une très belle image. C'est l'écolo à la table du repas de famille, je crois. Je sais pas si tu veux en dire deux mots, mais ouais, c'est à lui qu'on s'adresse.
Non, mais juste pour déjà enrichir ce que tu dis sur Sainte-Soline, des fois on nous dit vous êtes radicalisés, vous les écolos, etc. Non, c'est l'État qui a fait le choix de la radicalisation, c'est l'État qui a fait le choix de la violence. Et à un moment, c'est difficile de. Je vais pas faire des parallèles avec la Seconde Guerre mondiale et le fait qu'à un moment il y a plus que deux camps à choisir, quoi, mais. Bon, voilà, il y a quand même un moment où on n'a plus trop le choix de rester neutre. Mmh. D'autant plus quand derrière, moi, c'est vraiment en tant que journaliste, peut-être que je l'ai ressenti pour la première fois aussi violemment, c'est qu'en fait, deux, trois jours après Sainte-Soline, il y avait vraiment les interviews de Darmanin à la télé où il niait la vérité. La vérité documentée par le journaliste sur place, documentée par la LDH, documentée avec les images qui passaient derrière lui, et il disait noir alors que les images montraient blanc. Enfin, et ça, c'est un truc terrible. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on documente ça sur place, on est là, on dit quelque chose et on est balayé par une communication performative du gouvernement qui dit ça n'a pas existé. Et en tant que journaliste, on se dit quand même, en fait, c'est quoi notre rôle ? On peut continuer à documenter des trucs dont tout le monde se fout, ou alors on peut aussi s'engager plus dans ce combat-là, etc. Moi, c'est ce qui m'a quand même profondément marqué. Hein, Et vraiment, c'est là que j'ai compris la notion de post-vérité pour la première fois. Vraiment, c'est ça, quoi. C'est la négation de la vérité, mais
pleine et entière. Gros déclic, quoi. Pourtant, on a quand même déjà des médias engagés, indépendants. Je pense notamment à un média qui documente déjà les luttes sur le terrain. Comment ne pas devenir un média écolo en plus ? Qu'est-ce que vous souhaitez apporter en fait à la sphère médiatique ?
Nous, c'est vrai qu'on réfléchit un petit peu à cette proposition éditoriale depuis pas mal de mois, et on aspire à proposer quelque chose qui n'existe pas encore en fait. Mmh. Et à notre sens, effectivement, tu as parlé de reporters qui documentent les luttes au quotidien et qui font un travail absolument fondamental, admirable. Mmh. Nous, on est les premiers lecteurs de reporters, et d'ailleurs, on n'a que des amis dans la rédaction de reporters. Étant donné qu'on sera un journal papier et trimestriel, en plus bien sûr de nos contenus numériques, nous on aspire à avoir vraiment une approche intellectuelle, analytique, mais pas que, aussi avoir une approche pratique connectée au terrain des luttes, et également avoir cette sorte de critique un peu joyeuse, de ramener un peu de satire aussi dans les sujets, dans les thématiques qu'on aborde. Parce qu'en fait, on se rend compte aussi que par les temps qui courent, l'allégresse et la joie qui est arrachée est précieuse et aussi le meilleur carburant en fait pour continuer à se mobiliser pour sur les combats écologiques.
Sur Reporter, encore une fois, t'as raison, hein, ils font un super boulot, on est les premiers lecteurs Reporter. Après, eux, leur force...
C'est pas des concurrents pour vous, c'est plus des partenaires.
Bah non, parce qu'en fait, déjà sur support, c'est pas le cas. Ils font pas de papier, ils font pas vraiment de vidéo, pas beaucoup en tout cas aujourd'hui. Et surtout, eux, là, leur force, leur puissance, elle est sur produire l'information et suivre les luttes. C'est vraiment, je pense, là où ils sont vraiment... voilà. Nous, on n'a pas du tout vocation à aller là-dessus, déjà, je pense que c'est pas là qu'on est le plus fort. Et puis, ils le font déjà très bien. Pourquoi est-ce qu'on ferait la même chose ? Donc, par contre, nous, je pense que ce qu'on a à proposer, c'est, au-delà des supports, d'un papier, voilà, c'est aussi de muscler l'esprit critique des gens, d'essayer d'offrir toujours une lecture contextualisée et politique des événements avec une certaine distance qu'offre aussi le trimestriel, par exemple. La vidéo sera un peu différente, mais voilà. De faire vivre les idées, de les lier aux questions très concrètes du terrain aujourd'hui, des dossiers politiques du moment. Je pense que c'est cette mise en perspective et cet esprit critique, etc., ça, c'est là qu'est notre force. Et pour le coup, allier ça plus une ligne d'écologie radicale, bah dans le champ, il n'y a pas tant de monde qui fait ça. Donc je pense qu'on ne sera pas en doublon et on ne va pas aller chahuter les copains ici ou là.
Eh bien, bienvenue à Fracas. Pour reprendre encore votre manifeste, vous écrivez « Nous défendons un journalisme engagé qui ne se pare pas d'une prétendue objectivité ». Alors quels sont vos liens avec les milieux écolos et quels les milieux militants ? Et comment garder une posture journalistique quand même, parce qu'il peut y avoir aussi des biais à être dans une porosité trop prononcée avec certains milieux militants. Voilà, comment garder vraiment cette posture journalistique et amener un regard vaste, un esprit critique sans les biais du militant.
C'est une question qui est un peu compliqué quand même et qui ramène à toute la question effectivement de la neutralité, du rôle en tant que journaliste. Moi je pense que en tout cas en tant que média utile au combat écologique, notre rôle en tant que journaliste, c'est de ne pas faire ce que je vais appeler comme des papiers de confirmation en fait. On n'est pas là pour confirmer ce que pense déjà par ailleurs le lecteur, mais aussi parfois de temps en temps le bousculer, le démystifier et lui proposer des grilles d'analyse qu'il ne connaissait pas. Peut-être pas forcément, et auxquels ils pourraient être sensibles ou qui pourront même amplifier un petit peu ses connaissances d'un sujet, changer ses vues en fait sur tel ou tel combat, etc., etc. Moi, pour moi, c'est un petit peu ça, le rôle qu'on se donne. Et bien sûr, l'honnêteté intellectuelle nous implique, quand on commence à parler aux écolos, de parler un petit peu à toutes les sensibilités de l'écologie et parce que c'est ça en fait qui fait la force, la richesse du camp de l'écologie, c'est vraiment qu'il y a énormément de ramifications dans énormément de corpus de pensée, de traditions intellectuelles. Et là-dessus, c'est notre rôle en fait, c'est de délivrer un petit peu à peu près tout ce qui se pense de stimulant et de radical dans ce champ-là.
Donc Fracas, en gros, vous lancez votre campagne de financement en avril et votre premier numéro septembre, a priori, pour la rentrée militante, on va dire. Et vous choisissez aussi un modèle d'auto-organisation, on pourrait dire, appelé la SCOP, donc Société Coopérative de Production. Qu'est-ce que ça va donner concrètement sur votre organisation, tous les trois ?
C'est Marine la chef.
Moi, je veux bien parler de la campagne et de la sortie du magazine pour la SCOP, je laisserai Clément parce que c'est vraiment le chef.
Monsieur SCOP.
Il y a plusieurs chefs, c'est ça, ou il n'y a pas de chef du tout ?
Il n'y a pas de chef, mais c'est moi, la chef. oui, alors du coup, notre campagne se lancera en avril. La sortie en librairie se fera dans un second temps, en septembre. Ça va aussi nous permettre, cette campagne, d'ajuster les tirages, l'impression, de savoir si on a besoin de plus de moyens pour pouvoir faire le bimédia de nos rêves. Et je pense que ça va aussi nous permettre de prendre du recul après cette période quand même qui est assez chargée et qui nous demande de chercher des acolytes à droite et à gauche.
Plutôt à gauche, non ?
Ça dépend. Clément, encore une fois, est plutôt à droite.
Oh là là, comment reprendre la parole après une telle attaque ? Non, oui, sur la SCOP spécifiquement, nous, on avait vraiment envie, avec Fracas, d'édifier le média de nos rêves, en fait. Et ce média, le média de nos rêves, il est forcément sans pub, sans actionnaire, sans patron. Et la coopérative, c'est vraiment un choix assez naturel pour nous parce que c'est un modèle d'organisation qui a été déjà qui a une histoire, hein, à laquelle on est particulièrement sensible, d'auto-organisation et d'autogestion ouvrière, avec parmi la plus emblématique peut-être l'affaire LIP en 73. Et l'idée, c'était vraiment de rompre à notre échelle avec le modèle de l'entreprise capitaliste et le poids écrasant du capital que le capital peut exercer sur les salariés et aussi sur le destin de l'entreprise. Hein. Donc voilà, c'est vraiment d'expérimenter à notre petite échelle les idées qu'on défend.
Pour nourrir la discussion, je suis allé recueillir quelques témoignages à chaud dans une AMAP du Maine-et-Loire, l'AMAP de Saumur précisément. Si vous nous entendez, les copains amapiens, coucou. Je leur ai posé la question, qu'est-ce que l'écologie radicale pour vous? Qu'est-ce qu'une écologie radicale pour vous? Et voilà ce qu'ils ont répondu.
Ah, écologie radicale, ça c'est fort ça. Je pense à tout quoi, les téléphones, tout ce qui est... faut bannir. Là, c'est un peu plus difficile de rejeter ce qui est de notre monde là aujourd'hui et puis faire autrement.
Je dirais des manifestations qui sont un peu plus musclées que d'ordinaire parce que la manifestation passive, malheureusement, elle amène rien. Donc, est-ce que il faudrait pas un peu plus se montrer les dents? Tu pourras couper des trucs des fois, c'est ça. Ce que j'allais dire, est-ce que la FNSEA qui déverse des camions de fumier sur les ronds-points, c'est radical comme manifestation, mais c'est pas ce que je mets dans l'écologie à mon point de vue. Donc c'est voilà.
Et oui, alors l'écologie radicale pour moi, ça veut dire prendre le mal à la racine, quoi. Du coup, en fait, c'est bien pour tout ce qui est agriculture, hein, les racines, ce mot, ça évoque quelque chose. Et pour moi, l'écologie radicale, ça serait vraiment prendre les problèmes à la source des problèmes et non pas faire des actions, certes, de sensibilisation. OK, non, ça suffit pas, quoi. C'est vraiment identifier vraiment la vraie source du problème.
Écologie radicale.
Ouais.
Je sais pas, c'est... Pourquoi, alors, pourquoi radical
déjà, pour toi.
Écologie, je sais pas, ça va avec le maintien de l'environnement, de notre lieu de vie pour moi. Et,
et si on amène de la radicalité à l'écologie?
De la radicalité. Du coup, c'est le combat pour éveiller les esprits endormis.
Marine, Clément, Philippe, on a le mot combat hein, qui sort à la fin. Comment ça vous fait réagir à chaud ces propos, Philippe?
Bah, c'est génial. Si tout le monde pouvait penser ça, on aurait déjà gagné. Moi, je pense que tout est résumé. En tout cas, dans l'approche que j'ai, la radicalité, c'est radicalité de l'analyse, donc prendre à la racine, et c'est radicalité des actions, c'est-à-dire ne pas hésiter à mettre son corps en mouvement, à proposer des... sans aller forcément à l'extra-légalité et défendre ça, on va dire qu'en tout cas, le manifester son désaccord de façon plus authentiquement vénère que juste voter une fois tous les 5 ans. Voilà, ça c'est important pour nous. Après, ça veut pas dire que c'est alpha et l'oméga. On pourrait revenir sur radicalité, revenir à la racine. On va pas revenir sur le greenwashing. Et je pense que tout le monde a bien compris maintenant que les mesurettes et la pommade, ça réglera rien. Par contre, sur les actes, ça fait beaucoup plus débat. Mais ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit d'un œil plutôt bienveillant, évidemment, les mouvements qui vont dans la radicalité, non pas qu'elle soit, encore une fois, l'alpha et l'oméga et la seule manière, mais le soulèvement de la Terre, par exemple, hein, ou ce genre d'action, mais c'est qu'elle permette de pousser le centre de gravité de l'engagement plus à gauche, plus dans l'acte, dans le refus, la résistance, etc. Et il nous semble que c'est hyper important qu'on décale ce centre de gravité-là. Donc après, il y a la théorie du flanc radical, hein, c'est-à-dire que finalement, les plus radicaux rendent plus légitimes des demandes qui hier ne l'étaient pas parce qu'elles étaient considérées elles-mêmes comme trop radicales. Mmh. Mais vu qu'il y a plus radicaux que les anciens radicaux, et bah, du coup, ils deviennent légitimes, quoi. Donc voilà, donc, en tout cas, je pense que et dans tous les cas, on ne fait qu'accompagner le sens de la société aujourd'hui et de l'histoire. Hein. La radicalité, elle est là dans la société. C'est pas nous qui en faisant la promotion ou la créons.
Clément, est-ce que tu souhaites réagir aussi sur les propos?
Oui, je suis d'accord bien sûr avec tout ce que vient de dire Philippe. Hein. Il y a un témoignage que je trouve super intéressant, c'est celui de la de la dame qui parle de la manifestation passive et qu'on n'obtient rien par cette méthode-là, je suis d'autant plus d'accord qu'effectivement on a eu l'année dernière un mouvement contre la réforme des retraites qui en fait a été très très suivi avec des grandes manifestations et finalement qui s'est soldé malheureusement par un échec. Donc il faut toujours se rappeler aussi qu'en démocratie on n'a pas que comme l'a dit Philippe, le vote et la manifestation pacifique comme moyen d'action et que on a tout un arsenal de possibilités en fait pour s'opposer et pour contester en fait l'ordre capitaliste et la politique qui est menée actuellement. Voilà.
Marine, est-ce qu'il y a un enregistrement en particulier qui t'a marqué plus qu'un autre, une prise de parole ?
Ben, je pense que c'est le premier parce qu'on sent un peu la peur. Je pense que le mot radical peut faire peur.
Ouais.
Et ce que je comprends, mais au final, ça va bien se passer. On est beaucoup plus tous dans notre quotidien, je pense, à ce stade-là. Enfin, on est vraiment toute la société devient de plus en plus radicale sans s'en rendre compte, et que dans nos actions au quotidien et par rapport à nos réactions de tout ce qui se passe en ce moment avec ce gouvernement, on l'est déjà. Et qu'en fait, il suffit de pas grand-chose pour que ça marche.
Bon, ça va bien se passer alors. On reste là-dessus.
On va garder nos téléphones encore un moment. Il y aura d'autres choses à faire avant.
L'écologie aujourd'hui s'exprime au pluriel. Parce que l'écologie, c'est d'abord une science qui est née à la fin du 19e, puis c'est devenu un mouvement politique courant 20e, notamment avec le livre Printemps silencieux de Rachel Carson qui a lancé le mouvement environnementaliste aux États-Unis. Aujourd'hui, on a plusieurs ramifications, comme tu disais, Clément, écoféminisme, écomarxisme ou autres pensées du vivant. Comment faire dialoguer ces différentes branches de l'écologie ? Les faire dialoguer de manière fertile ? Comment créer de la conversation entre ces différents mouvements ?
Je pense vraiment que c'est ce qu'un média comme le nôtre a peut-être de plus utile à proposer pour le mouvement écolo. C'est justement un cadre, un espace en fait, de débat. Je ne vais pas dire neutre, encore une fois, on ne va pas revenir sur la neutralité, mais dans tous les cas, un espace où tout le monde peut se sentir en fait, écouté et à l'aise en fait, pour avancer ses idées, les confronter à d'autres. En fait. Ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps. Les choses sont en train d'un peu changer chez les gens qui se définissent comme écolos. Je pense qu'il y a beaucoup, de plus en plus en fait, de personnes qui se rendent compte qu'importe en fait, la tradition philosophique, idéologique à laquelle on se rattache, quand on doit s'opposer aux méga-bassines, on combat tous en fait, la même chose. En fait. Donc, même sans médias, cette convergence entre, guillemets, entre différentes sensibilités de l'écologie, elle se produit et on la voit, nous, jour après jour, en suivant les luttes. Quoi.
Mais est-ce que vous arrivez déjà à dessiner certaines lignes rouges ? Par exemple, on a aujourd'hui quand même des tenants de l'écologie industrielle qui amènent des idées assez construites hein, sur une société qui pourrait se réinventer par l'industrie, par le capitalisme et du coup devenir plus verte. Est-ce que vous vous sentez de faire dialoguer cette écologie-là aussi, Philippe ?
Non. Non, voilà. Je veux dire, nous, on part de certains postulats, de certains axiomes idéologiques, hein, comme le fait que la croissance du capital et de la plus-value n'est pas compatible avec la préservation des conditions d'existence. Donc, voilà. Donc déjà, tout discours qui promouverait ça comme finalité, le capital, non. Après, par exemple, quand tu dis écologie industrielle, de quoi on parle ? Parce que, par exemple, je vais prendre un exemple, je sais pas, l'écologie, par exemple, développée aujourd'hui par François Ruffin. François Ruffin, dans son discours, il ne remet pas en question fondamentalement le capitalisme là aujourd'hui, demain. C'est pas un révolutionnaire, en tout cas dans sa proposition. Par contre, il veut faire un Green Deal à la française. Il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans. C'est un discours qui articule autour du travail. Et je pense que le travail comme notion cœur d'un projet écologique commun, c'est quelque chose de très important. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à piocher là-dedans. Et alors moi, il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on peut faire dialoguer à ce niveau-là. Demain, on aura besoin. Je veux dire, on vit dans une société de 60 millions de personnes en France, 67 millions, je crois. Il y a un moment, il y aura besoin d'industrie, il y aura besoin d'emploi, il y aura besoin de main-d'œuvre, de récup, il y a besoin d'une industrie. Laquelle ? Selon quel principe ? Ça, c'est l'organisateur. Quelle finalité ? Ça, c'est le vrai débat. Et derrière, en plus, en partant de cette industrie-là, de cette réflexion-là, en tout cas, on peut aussi raccrocher des classes populaires, par exemple. Je veux dire, tous les métiers de la maintenance, de la récup, de la réparation, il y a un nombre de compétences et de champs de métiers qui sont historiquement populaires et qui sont, en fait, pour moi, les héros de la transition, si on devait utiliser ce mot-là. Il y a un vrai débat, et pour ça, il faut bien sûr dialoguer dans les termes aussi d'un projet industriel. Donc ça ne veut pas dire que voilà, c'est pas parce qu'on est technocritique qu'on refuse de parler industrie, etc. Par contre, c'est vrai que vraiment un projet capitaliste vert, non, on ne le fera pas dialoguer, on considère qu'on le dénoncera, on décryptera, mais on ne le fera pas dialoguer avec les autres.
Mais certaines sensibilités de l'écologie vont vraiment rejeter cette dimension industrielle, et même certains médias ou certaines maisons d'édition, je pense par exemple à Wild Project qui s'affirme vraiment comme promoteur d'une écologie anti-industrielle. Est-ce que du coup ces pensées-là ont aussi la place dans le dialogue pour vous ?
Moi, je viens de la pensée technocritique dans mon parcours, donc je la connais bien, cette pensée. Mmh. Après, encore une fois, c'est ça, c'est ça le dialogue. C'est-à-dire que, oui, il y a des courants technocritiques, anti-industriels, etc., dans les mouvances écologiques aujourd'hui, qui ne sont pas compatibles avec d'autres projets, enfin, en soi, qui sont conflictuels, en conflit avec d'autres projets écolos. Certes, n'empêche qu'ils savent très bien qu'il faut qu'on avance ensemble. Et quand on parle à des technocritiques, même des bien vénères, hein, ils savent bien qu'on va passer du jour au lendemain à une société non industrielle. Il sait bien qu'il faut faire des concessions. Et globalement, le sens aujourd'hui du mouvement écolo, c'est quand même de faire alliance. Ouais. Et par contre, pour faire alliance, il faut quand même qu'on s'explique sur ce sur quoi on n'est pas d'accord. Voilà. Si on a juste des grands mots d'ordre d'union et qu'un jour, dès qu'on découvre qu'en fait ça marche pas, on se tape dessus, c'est contre-productif. Il faut mieux qu'on commence un peu par se taper dessus et se dire, dans tous les cas, à la fin, il y a des choses où on ne sera pas d'accord. Mais en tout cas, il y a quand même tout un ensemble de choses sur lesquelles on considère que c'est des priorités stratégiques ensemble. On est d'accord là-dessus, on marche ensemble. Et je pense que c'est ça, un projet aussi éditorial comme le nôtre, c'est de faire émerger ces débats pour permettre des alliances. Mais bien sûr qu'il y a des choses qui sont irréductibles dans des conflits, hein, mais c'est normal, c'est la société, c'est la démocratie.
Pour élargir les horizons, est-ce que vous auriez des livres, des auteurs, des autrices à nous proposer, Marine?
Moi, je pense qu'en un, je dirais Françoise Vergès. J'ai vraiment énormément adoré son dernier livre, Décoloniser les musées. Je trouve que c'est un livre qui ouvre les yeux et qui fait vraiment énormément réfléchir. En deux, je pense que Clément et Philippe vont me rouspéter juste après. Mais on est Louis Mars, et du coup, je vais dire à Britney Spears, La femme en moi.
Ok.
C'est écrit avec les pieds, mais je trouve que c'est une icône et que ce qui lui est arrivé, comment elle a été mise sous silence et à profit d'énormément de gens qui ont pu s'enrichir. En vrai, ce qui s'est passé est incroyable et je pense que c'est un livre qui peut être un peu important dans l'histoire de la pop culture.
Eh ben, on est très heureux d'avoir ces préconisations de lecture au féminin parce que c'est vrai que parmi les penseurs de l'écologie, on a beaucoup d'hommes, Clément, Philippe.
Oui, malheureusement, mais je vais avoir que des auteurs hommes.
Du et morts.
Non, trop pas.
Et blancs.
Non, pas du tout en plus. non, oui, moi, pour moi, il y a vraiment un bouquin moi, qui m'a vraiment fasciné et qui a acté d'une certaine façon ma bascule sur les questions écolo. C'est un livre du philosophe André Gortz qui s'appelle Ecologica. Moi, je viens plutôt d'une tradition un peu plus anticapitaliste, socialiste. C'est un livre qui fait... Alors c'est un recueil d'articles, hein, mais qui brosse très bien la liaison irréductible en fait entre une critique du capitalisme et l'écologie moi il y a eu un avant et un après lecture de ce livre, et en ce moment je suis en train de lire un livre d'un auteur qui s'appelle Nello Magalès qui s'appelle Accumuler du béton, tracer des routes, qui va sortir encore une fois aux éditions La Fabrique en avril, et qui raconte la production de l'espace capitaliste et pourquoi cet espace est dévasté et qui entend politiser les flux et les dégâts environnementaux. Donc c'est un livre qui est très très prometteur et que je recommande déjà, même si j'ai pas encore fini de le lire. Voilà.
Merci à toi, Philippe.
Alors, moi, auteur, le cœur, hein, le sang, c'est Bernard Charbonneau, qui a été un auteur assez majeur pour moi. Et je conseillerais Le Feu Vert, un livre sorti à l'édition L'Échappée quelques années, qui est une republication d'un livre qu'il a écrit en 80, et sous titre Autocritique du mouvement écologiste. Et je trouve que c'est déjà brillant, mais par ailleurs extrêmement d'actualité, et justement avec le léger décalage qui fait que ça met en perspective beaucoup de nos combats et de nos réflexions aujourd'hui, etc. Vraiment, c'est un livre, je trouve, qui est très utile de relire aujourd'hui, qui n'est pas très long, et qui est pas inaccessible, c'est pas un livre de théorie, c'est un livre de réflexion. Donc voilà, et un petit bonus, alors rien à voir, je vais conseiller un manga qui est adapté en anime en ce moment, qui s'appelle Free Eren. Et voilà, c'est une sorte de fable dans un monde médiéval fantasy. Donc c'est un manga japonais hein, qui reprend les codes du médiéval fantasy, de la quest habituelle avec les donjons, etc. machin, mais le prend complètement à contre-pied dans une sorte de fable sur le temps, le lien qu'on entretient avec les gens, avec la nature. Et c'est, il y a une poésie et une, enfin c'est incroyable. C'est très très poétique et je le conseille à tout le monde.
Tu peux nous redonner le titre juste?
Free Eren. Alors Frieren.
Ok, c'est noté. Comment vous imaginez le monde dans 20 ans, dans une perspective plutôt heureuse? On ouvre encore les horizons et puis on essaye d'aller chercher de la joie et puis de la lumière.
Ouais, c'est
difficile.
C'est difficile.
Mais une retraite anticipée.
Ouais, ben moi, enfin, clairement, bah, oui, t'as raison, Marine. Moi, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur et la manière dont j'envisage un monde heureux dans 20 ans, c'est vraiment un monde où. Ce que André Gorz, d'ailleurs, dont je viens de parler, appelait la civilisation du temps libre, c'est un monde où, en fait, les vies ne sont plus dévolues à l'effort productif et où chacun a les moyens de mener une vie digne et émancipée en dehors du travail. Et ça implique, du coup, de réduire le temps de travail, tout simplement.
Et je pense de ralentir aussi.
Et de ralentir. Et dans 20 ans, on peut se donner des objectifs quand même atteignables. On ne fera pas tout en 20 ans, mais celui-là, moi, je pense qu'il est fondamental. Et surtout que c'est un peu la première marche vers pas mal d'autres choses et vers une vraie transformation de la société. Voilà.
Marine, tu voulais réagir ?
Moi, je suis assez d'accord avec Clément. C'est vraiment ralentir et avoir une société qui tourne moins autour du travail. Et franchement, moi, quand je pense à dans 20 ans, je me dis un monde sans canicule parce que c'est vraiment mon pire cauchemar.
Ça va être difficile, ça. Philippe ?
Moi, dans 20 ans, la cité heureuse, ce serait une cité où tout le monde se dispute tout le temps, mais dans des assemblées populaires.
D'accord.
Voilà, moi, j'aimerais vraiment, je pense qu'un des trucs fondamentaux d'une société qui va dans la bonne direction à plein de niveaux, et notamment écologique, c'est des assemblées populaires, c'est du tirage au sort, pas forcément que ça, mais en tout cas des hybridations avec ça. Voilà, des espaces où en fait on décide en commun, où on se dispute et à la fin on fait valoir un avis qui est éclairé par la dispute. Et je pense que.
Et
voilà.
On boit une bière bio à la fin, c'est ça ?
Et on boit une bière bio ou pas, on boit une bière à
sans
la
gluten.
Fin. Et voilà, et on se dispute, on ne remet pas tout pouvoir dans une délégation, dans une représentation, etc. Et on apprend aussi à se disputer de façon saine entre nous.
Et ben merci pour ces horizons. Ultime question pour passer la main au prochain épisode. On reçoit Paul Watson et Lamia Essemlali de Sea Shepherd. Vous êtes journaliste. Est-ce que vous pouvez m'aider un peu sur les questions? Quelles questions vous aimeriez leur poser?
Ah, on est journaliste chiant, hyper intello. Du coup, on a des questions intello. Non, moi, je sais pas, ça m'intéresse beaucoup le sujet écologie / antispécisme, parce que c'est quand même une fracture assez importante qui peut peut-être donner lieu à des alliances, hein, mais qui n'est pas du tout évidente. Et moi, j'aimerais bien savoir dans quelle mesure eux peuvent. Comment est-ce qu'ils considèrent les mouvements écolos? À quel point ils considèrent aussi le monde paysan? Est-ce que c'est compatible avec leur combat, leur projet? Est-ce qu'ils se projettent dans une société dans 20 ans, par exemple, où il y a un monde paysan, il y a une pêche traditionnelle, il y a des enjeux de régulation quand même des espèces et des écosystèmes, donc des enjeux écologiques en fait. Voilà, est-ce que ça les trouble? Est-ce que ça les trouble pas du tout et qu'ils sont très contents si ça se produit? Voilà, ce sera un peu ça. Stratégie et société en 20 ans.
Clément, est-ce que tu aurais une question?
Ouais, mais c'est vraiment une question vache et je veux pas qu'ils m'en veulent parce que je pense que Sea Shepherd sont des camarades avant tout, mais moi je me pose vraiment une question, c'est pourquoi ils ont appelé leur bateau Brigitte Bardot, quoi, qui est pas du tout pour le coup. Je crois qu'ils l'ont revendu maintenant, mais qu'il y a des prises de position, on va dire, pas très sympa et pas très recommandable, on va dire, ces dernières années. Voilà.
Bah, moi, je suis pas journaliste, donc je vais juste leur dire j'adore ce que vous faites. Merci.
Chouette, merci. Merci beaucoup à tous les trois, Marine, Clément, Philippe, d'être venus à la recyclerie. Merci pour vos idées fracassantes. Et puis, on va vous suivre, vous trouver en librairie bientôt. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour soutenir Radio Recyclerie, vous pouvez partager l'émission autour de vous, l'évaluer positivement et vous abonner au podcast. Radio Recyclerie met en onde les foisonnantes discussions enregistrées à la Recyclerie, un tiers-lieu engagé situé porte de Clignancourt à Paris. Venez-y pour prolonger les conversations et faire vibrer les écologies.